France Inter, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier.
Comme chaque dernier vendredi du mois, nous décryptons la ligne éditoriale de France Inter et le traitement médiatique de l'actualité sur cette antenne. Ce mois de mai a été intense, les auditeurs nous ont beaucoup écrit. Au menu de cette émission qui s'annonce dense, les élections européennes, l'affaire Vincent Lambert, la chanson de Frédéric Fromet sur Notre-Dame de Paris, la publicité Air France et l'environnement sur France Inter. Pour en parler ce matin avec nous en studio, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, Catherine Neil, directrice de l'information sur France Inter, Daniel Messager, chef du service société et spécialiste santé, et Thomas Legrand, éditorialiste et journaliste politique. Bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel.
Et on commence tout de suite avec les élections européennes.
Non, mais je veux pas la casser.
Il faut participer aux politiques européennes.
Changer sa nature.
Ce soir, suivez les résultats des élections européennes en direct sur France Inter.
À la une ce matin, Agnès, le nouveau Parlement européen avec la poussée contenue des populistes, la montée des écologistes et le recul des partis traditionnels. En France, le scrutin européen amplifie la bipolarisation, Rassemblement national, La République en marche.
Les auditeurs de France Inter ont été nombreux à déplorer que les journalistes s'enferment dans des sujets franco-français lors de cette campagne. Message de Didier. Je réagis à vos grands entretiens avec les têtes de listes européennes. Vous ne développez pas les sujets européens. Vous n'abordez que les sujets de politique franchouillarde. Ce matin, c'était caricatural. Le cas Vincent Lambert, l'opinion de Monsieur Bellamy sur l'avortement en Alabama. Un constat également formulé dans le mail de François. Vous contribuez au désamour et au désintérêt des Français pour l'Europe en focalisant vos questions sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec l'Europe. J'attends de France Inter qu'elle fasse comprendre aux Français les vrais enjeux que proposent les différents partis à propos de l'Europe. Catherine Neil, que répondez-vous à ces auditeurs ?
Eh bien que je m'inscris en faux de manière très virulente, Emmanuel, parce que je crois que depuis 3 mois maintenant, avec des émissions délocalisées en Europe, avec des téléphones sonnes spéciaux autour du fonctionnement de l'Europe, nous avons vraiment cherché à ouvrir le plus possible la réflexion de nos auditeurs. Alors, certes, nous votons en France avec des listes françaises, des candidats français. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'ils aient la possibilité de s'exprimer, ce qu'ils ont fait à travers des grands entretiens. Et à ce moment-là, politique française et actualité et thématiques européennes s'entrecroisent. C'est le but aussi d'une interview, Emmanuel.
Thomas Legrand, en tant qu'éditorialiste politique, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de sujets franco-français abordés au cours de ce débat ?
Je dois dire, en tant qu'observateur un petit peu historien des précédentes européennes, qu'on a fait du progrès, on a plus parlé d'Europe pendant ces élections européennes qu'avant. Simplement, nos auditeurs ont peut-être quelquefois, on peut aussi les critiquer, nous, ont peut-être quelquefois une oreille un peu sélective. Vous savez, quand on parle d'Europe, ça les intéresse, mais ils retiennent pas spécialement ça. Ce qu'ils retiennent plus, c'est effectivement les petites bisbilles et les questions politiciennes. Je pense qu'on en fait moins qu'avant et moins qu'ailleurs.
Alors, au sujet des bisbilles, les auditeurs et auditrices reprochent également un traitement trop centré sur la lutte, La République en marche, le Rassemblement national. Catherine écrit « Je n'en peux plus d'entendre parler de la guéguerre de La République en marche et du Rassemblement national qui tue le débat européen et le réduit à une compétition stérile. Les meetings des écologistes sont très rarement mentionnés. Or, si les écolos ont du mal à percer en France, c'est pourtant un groupe important au Parlement européen. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi il y a ce manque de relais ? Alors, ce qui est intéressant, oui, c'est que le résultat des élections...
Voilà, le résultat contredit. On a beaucoup parlé d'environnement, par exemple, et puis l'actualité était tournée sur l'environnement. Donc là encore, il ne faut pas simplement regarder ce que disent les hommes et politiques ou même les journalistes politiques. La politique, c'est beaucoup plus large que ça. Sur le duopole, le fameux duopole, La République en marche, Front National, ce sont justement deux visions de l'Europe différentes. Et ce sont les deux partis les plus importants. Il y a un devoir d'équité et d'égalité qui nous incombe. Je pense que notre auditrice qui dit ça devait voter pour quelqu'un d'autre.
Oui, elle nous l'a dit. Elle votait écologiste.
Alors, en dehors effectivement de la façon d'ailleurs dont le RN et l'AREM ont voulu s'opposer l'un à l'autre, le CSA nous demande malgré tout, avec cette équité et non pas cette égalité de temps de parole, de donner plus de temps de parole aux gros partis, c'est-à-dire aux partis qui sont le plus représentés. Donc, effectivement, à l'antenne, oui, nous avons entendu plus d'interlocuteurs du Rassemblement National et de La République En Marche. Mais nous avons fait énormément de sujets qui donnaient vraiment la parole à tout le monde.
On poursuit avec le message de Stéphane. Je suis déçu par le début de la soirée électorale sur France Inter. Pourquoi ramener l'élection européenne à une question sur Emmanuel Macron? Pourquoi interrompre les discussions pour une déclaration d'Édouard Philippe? Vous avez une responsabilité pédagogique. Il faut nous expliquer les résultats pour le Parlement européen et ne pas rentrer dans le jeu de ceux qui ramènent le scrutin à un enjeu de politique nationale. Quel éclairage pouvez-vous apporter à cet auditeur?
Alors, plusieurs choses. Nous n'avons pas à la même heure les estimations sur le plan national et sur le plan européen. Donc à 20h, nous avons des estimations sur le plan national. Une soirée électorale, c'est à la fois du décryptage, mais c'est aussi entendre des faits. Pour décrypter, il vaut mieux avoir quand même et commencer par le factuel. Pour analyser une situation, c'est bien d'entendre les différents autres acteurs, y compris le Premier ministre français. Donc effectivement, dans une soirée, on jongle un peu entre des interventions directes, qu'on ne gère pas totalement, et un plateau. Thomas a participé à ce plateau et est vraiment à ce décryptage et cette contextualisation de l'information. Mais quand des acteurs importants, quand des hommes politiques s'expriment, eh bien, il faut les entendre. Ça permet après de faire une analyse. Mais faire une analyse sur un fait qu'on n'a pas mentionné, c'est quand même un peu plus compliqué.
On poursuit à présent avec un dossier qui a littéralement télescopé la campagne des élections européennes.
Le médecin qui suit Vincent Lambert au CHU de Reims va mettre en place à partir d'aujourd'hui l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation sous sédation profonde. Le décès doit intervenir au bout de quelques jours.
De la première des victoires, c'est la remontada.
À la une de l'actualité ce matin, la décision inattendue de la Cour d'appel de Paris qui relance la bataille judiciaire sur le sort de Vincent Lambert. La justice a ordonné hier soir la reprise des traitements interrompus quelques heures plus tôt et une fois encore, la famille se déchire.
Daniel Messager, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service société et spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Le cas Vincent Lambert a suscité beaucoup de courriers, des critiques du traitement médiatique de cette affaire. Alors, je précise d'emblée que ces critiques ne sont pas du tout nominatives, donc elles ne vous concernent pas, Daniel Messager, en tant que spécialiste. Elles touchent davantage l'ensemble des journaux et la rédaction. Mais c'est avec vous qu'il me semble le plus pertinent d'aborder cette question, puisque vous suivez ce dossier hors norme depuis le début. Alors on commence avec le mail de François. Le traitement de l'affaire Vincent Lambert me choque profondément. Vous prenez clairement parti pour les parents en présentant leurs émotions et en donnant un écho disproportionné aux arguments de leurs avocats. Daniel Messager, y a-t-il un parti pris dans le traitement de cette affaire?
Alors dans les éléments des journaux, on fait toujours très attention à contrebalancer les prises de parole. Ceci étant, je comprends parfaitement le sentiment dans la mesure où ce sont effectivement les parents qui ont occupé l'espace pour la bonne raison que le camp adverse, on est obligé de parler de camp adverse puisque dans cette famille recomposée et décomposée, il y a deux camps. Eh bien, le neveu, une partie des frères et sœurs et l'épouse ne souhaitaient pas, eux, pour des raisons de décence, s'exprimer au moment où l'arrêt des traitements se mettait en place. On était le lundi 20, on pouvait légitimement penser alors que la mort de Vincent Lambert interviendrait dans les jours à venir et il était hors de question pour eux de commenter quoi que ce soit. Eh bien, cet espace qui était laissé vide, les parents l'ont envahi. Ils ont fait des conférences de presse devant l'hôpital. Ils ont appelé à des rassemblements de soutien. C'est leur stratégie de communication. Mais ce n'est en aucun cas une volonté de la rédaction de privilégier un point de vue. Ce lundi 20, c'est vrai que les parents étaient seuls.
Autre critique, l'approche sensationnaliste du dossier. Pierre écrit « Moi qui écoute France Inter toute la journée, je suis atterré d'avoir à subir heure par heure l'avancée des suites de la vie de Vincent Lambert. Un peu de décence, cessez de me dire qu'il n'est plus nourri, qu'il est sédaté. Je n'en peux plus de cette information terriblement voyeuriste. »
Eh bien, quel est le fait d'actualité? Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Quel est le fait d'actualité ce jour-là? C'est l'arrêt des traitements. Et le journaliste ne peut pas se contenter de dire, eh bien, aujourd'hui, on arrête les traitements. Il y a nécessité d'expliquer ce que ça signifie. Parce que toute l'affaire Vincent Lambert repose autour de cette demande d'arrêt des traitements. Elle a été autorisée par la justice, mais jamais mise en application par les médecins. Enfin, mise en application une fois, puis interrompue encore une fois par la justice. Donc, après tant d'années, quand le médecin dit, aujourd'hui, j'arrête les traitements, eh bien, il faut expliquer. Il faut expliquer que les traitements, c'est pas un respirateur artificiel, par exemple. Vincent Lambert respire seul. C'est de la nourriture et l'hydratation qui sont artificielles. C'est ça qui va être arrêté. Et puis, il faut expliquer aussi que c'est accompagné d'un endormissement, d'une sédation profonde et continue pour éviter tout inconfort, comme le stipule la loi, car le médecin applique la loi. Et ce qu'on est en train de dire, c'est pas du voyeurisme, c'est de l'information, c'est ce qui est en train de se passer et conforme à la loi.
Daniel Messager, dans cette affaire, le traitement médiatique d'un épisode a particulièrement choqué les auditeurs. Alors, un bref rappel des faits. Le lundi 20 mai, le soir, une marche parisienne réunit plusieurs centaines de personnes réclamant la vie pour Vincent. Et une énorme clameur a retenti lorsque, apprenant la décision judiciaire de reprise des soins, l'un des avocats des parents de Vincent Lambert a sauté de joie et lancé à la foule « On a gagné, c'est la remontada ». De nombreux auditeurs ont été choqués. L'un d'eux écrit « Je trouve inadmissible la façon avec laquelle on décrit ces centaines de personnes manifestant leur joie. Ils sont uniquement motivés par des préceptes de religion chrétienne extrême, catholique, voire intégriste. Votre traitement médiatique semble leur donner de la légitimité. C'est du prosélytisme pour une radio laïque et publique. » Alors là, je pense qu'il y a vraiment un décryptage sur le traitement de ce fait à expliquer à cet auditeur.
Ou alors, encore une fois, on peut tout à fait trouver ce comportement inadmissible. Et effectivement, les commentaires sont nombreux. J'en ai reçu aussi sur cette attitude. Alors, c'est néanmoins un élément d'information qui ne peut pas être passé sous silence. C'est un épisode supplémentaire qui vient éclairer la façon dont une partie de la famille se comporte. Alors, que n'aurait-on dit si on ne l'avait pas mentionné, que nous faisions de la rétention d'informations ? À ce moment, je replace un peu dans le contexte, nous sommes le lundi soir tard, tombe cette décision de justice qui, sincèrement, n'était pas attendue. François Lambert, le neveu, ne peut plus rester sous silence. C'est la partie de la famille qui ne s'est pas exprimée jusqu'à présent. Et le lundi soir tard et le mardi matin, on va l'entendre, il va sortir du silence, il va dire qu'il est abasourdi, qu'il parle de sadisme pur de la part des parents. Nous l'avons diffusé, bien évidemment, ainsi que son avocat. Et nous avons évoqué aussi l'interview de Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, qui elle aussi est sortie du silence, mais n'a parlé qu'à un seul média, pour s'exprimer, pour dire qu'elle souhaitait toujours que son mari parte pour qu'il soit libre. Nous avons donc bien fait la part des choses et diffusé la totalité des prises de parole.
Daniel Messager, on termine avec cette interrogation d'un auditeur. Pourquoi la décision de justice prime sur la décision médicale ?
Alors ça, c'est effectivement une question très intéressante que beaucoup de personnes se posent. La médecine doit-elle se plier à la justice dans un sens, puis dans un autre, puisqu'on a vu qu'il y avait les deux sens, au risque de perdre tout sens dans cette affaire, justement, c'est ce qui se passe. La justice, on le voit maintenant, peut contrarier une décision médicale. L'impact pourrait être très important, car petit à petit, la position judiciaire pourrait bloquer les décisions médicales sur d'autres affaires. Alors, il est clair, pour remettre encore une fois, on se place du côté de la loi, c'est une décision médicale quand on est en fin de vie, qu'on pratique une fin de vie, que le médecin qui suit Vincent Lambert aurait même pu la mettre en pratique plus tôt. Rien ne l'empêchait depuis le dernier Conseil d'État. Il y a eu cette pression toujours permanente des parents et des avocats des parents. C'est la raison pour laquelle les équipes médicales ne s'étaient pas encore engagées jusqu'à présent, mais auraient pu le faire. Et je vous invite, ça peut intéresser nos auditeurs, à lire une tribune très intéressante du docteur Véronique Fournier, qui est présidente du Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie. Ça s'appelle « Vincent Lambert, le chagrin et la honte ». Et il est dit que c'est bien la médecine qui accompagne les hommes dans leur fin de vie, non les juges, non les avocats, non les médias, non la société.
Daniel Messager, merci.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures.
Dans cette hystérie à grande échelle, il y a quand même une bonne nouvelle. Sur Amazon, Victor Hugo détrône Guillaume Musso. Elle a cramé la cathédrale.
Elle a cramé la cathédrale, c'est le titre de cette chanson de Frédéric Fromet. Laurence Bloch, rebonjour.
Rebonjour.
Nous avons reçu des centaines de mails d'auditeurs. Je vous lis le message de Yolande qui reflète à lui seul l'ensemble des courriers. Je trouve honteux la diffusion d'une telle chanson sur le service public. Les propos sont haineux et incitent à la haine. Elle n'est pas seulement irrespectueuse pour les catholiques, mais aussi pour les Français, ceux qui aiment les belles choses, la culture et qui respectent les œuvres du passé. Que répondez-vous à Yolande et à tous les auditeurs qui nous ont écrit?
Vraiment, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui se sont senties blessées par cette chanson, que j'en suis très profondément désolée et que ce n'était évidemment pas le sujet de la chanson de Frédéric Fromet. À aucun moment il ne s'est moqué de l'incendie de la cathédrale. Je voudrais d'abord préciser que c'est une chanson qui s'inscrit dans une émission qui est très repérée, qui est une émission de divertissement qui est diffusée à 17h, qui est donc une émission de programme dans laquelle il y a de l'humour, du second degré, du troisième degré, des choses baroques, des choses de mauvais goût, mais de la liberté. Et que cette émission, les auditeurs et les auditrices qui connaissent bien la chaîne et qui l'écoutent beaucoup savent que c'est une émission du divertissement. Par ailleurs, ça n'est pas une chanson qui se moque de l'incendie, c'est une chanson qui pointe une concordance des temps qui était quand même aussi très singulière. C'est-à-dire qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, mais très peu de temps avant, on avait beaucoup parlé d'un autre incendie qui était la question de la pédophilie dans l'Église, et est venu percuter, j'allais dire, ces deux incendies éthiques et réels, la question de l'argent. Cet argent qui s'est déversé pour sauver Notre-Dame, et on s'est réjouis tous, mais qui, quelque part, quelquefois, manque aussi pour des situations qui sont des situations de précarité. C'est ce tamponnage des trois événements qui est quand même très singulier, qui prête à réflexion que Frédéric Fromet, avec sa verve et son très mauvais goût, mais l'humour, quelquefois, c'est le très mauvais goût, a pointé. Ça nous aide à réfléchir. Je comprends qu'on soit choqué, mais encore une fois, c'est vraiment de la distance. Et je pense qu'il faut garder cette distance, sinon la démocratie, quelque part, n'existera plus. Voilà, donc il n'y avait aucune intention de provoquer, aucune intention de blesser. C'est une façon de nous faire prendre de la distance par rapport à des événements. Pas plus, mais pas moins.
Alors, on passe maintenant à une publicité qui ne passe pas auprès des auditeurs et des auditrices. Anouk nous dit qu'elle est restée bouche bée en entendant la météo de France Inter sponsorisée par Air France qui vante les mérites des vols internes. Quand on sait que c'est le moyen de transport le plus polluant, n'y a-t-il pas là une belle contradiction?
Alors, on a des auditeurs qui sont très intelligents. Ils ont évidemment raison. Là aussi, cette confrontation entre la météo et la publicité pour Air France, c'est pas tout à fait opportun. Alors, cela étant, ça pose toute la question dont on va s'emparer à la rentrée de la transition écologique. C'est-à-dire qu'à ce jour, il y a encore des auditeurs, il y a des citoyens français qui ont besoin de prendre l'avion et il n'y a pas de jugement moral à porter sur cette nécessité. Par ailleurs, Air France est un annonceur absolument légitime et nous n'avons pas le droit, ce serait un refus de vente, nous n'avons pas le droit de nous opposer à des publicités d'Air France. Maintenant, je pense que ça nous amène tous, autant que nous sommes, à réfléchir sur comment est-ce que chacun, là où il est, participe de la transition écologique. Je veux dire, il y a la question d'Air France, mais il y a eu la question de la journée sans plastique à France Inter, mais ça a duré une journée. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question de temporalité, aussi d'un peu d'acceptation que les choses iront lentement, mais qu'il faut qu'on y aille ensemble sans se dénoncer les uns les autres.
Laurence Bloch, vous venez d'évoquer la journée sans plastique, qui a été un très beau succès. D'ailleurs, les auditeurs nous ont beaucoup écrit pour nous dire à quel point ils avaient apprécié ce rendez-vous.
On recommence le 5 juin.
Très bien, on note sur les agendas. Lors de notre dernier rendez-vous, vous indiquiez que vous étiez en pleine réflexion sur une nouvelle émission consacrée à l'environnement et à l'écologie. Est-ce que ce projet verra le jour sur l'antenne à la rentrée prochaine?
Absolument, ce projet va s'inscrire dans la grille de rentrée de France Inter. C'est une émission qui s'appellera « La Terre au carré », qui sera portée par Mathieu Vidard, qui sera diffusé tous les jours à un très grand carrefour d'audience de 13h30 à 14h30. C'est une émission qui se veut participative, c'est une émission qui se veut engagée, c'est une émission qui se veut référente, c'est une émission qui invitera des scientifiques et des jeunes, des artistes et des philosophes, précisément pour que tous ensemble, on organise la transition écologique.
Merci pour cette annonce. Merci également à Catherine Neil, Daniel Messager et Thomas Legrand. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. À la préparation de cette émission, Catherine Cadic et Juliette Fayollet. À la réalisation, Alicia Vulot et à la technique, Morgane Danan. Pour nous écrire, une seule adresse, mediatrice.radiofrance.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Après le flash de 10h, vous retrouvez Ali Rebéi et ses invités.